rends compte que manque pas d'amplification, donc j'ai pas besoin de crier. Je voudrais ce soir vous parler de deux sujets. Ce que j'ai apporté, il faudrait 16 à 20 heures pour vraiment regarder tous les détails, donc on n'y arrivera pas. Mais je voudrais parler ce soir du couple, du mariage. Et puis, deuxième sujet, sans interruption, comment préparer ce temps de mariage. Donc ça s'adressera aux célibataires, mais aussi à ceux qui sont mariés peut-être depuis longtemps, pour qu'ils disent, est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on peut réparer des choses dans notre vie? La première chose dont on veut parler ce soir, c'est du mariage. Comme vous le savez, et je remercie le pasteur d'avoir lu tous ces passages, puisque il fallait les lire, mais c'est lu. Donc on peut continuer tout de suite dans le livre du sujet. Vous êtes rendu compte que l'institution du mariage revient peu à peu à la mode. Pendant tout un temps, il y a 15-20 ans, jusqu'à il y a 5-6 ans, les gens disaient pas de mariage, moi c'est ringard, c'est vieux jeu, le mariage, c'est fini, mariage, ça se termine avec le christianisme. Et puis tout à coup, non, mais si, c'est bien, c'est sympa de se marier. Ah, d'ailleurs, c'est un jour de fête, hein, donc il ne faut pas mépriser les jours de fête. La robe blanche, la réception des amis, le champagne, tout ça, c'est bien sympa, un peu comme les baptêmes chez les gens. Donc on revient un peu au mariage, et puis on revient un peu à ce qui est traditionnel, parce qu'on a pensé qu'on pouvait éclater la société, tout renverser, et puis on se rend compte qu'on a quand même besoin de cadre, donc pourquoi pas revenir au mariage. Mais beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas se marier si on veut garder l'amour dans sa relation. Ils pensent que le mariage tue l'amour. Dès qu'on met la bague, ça y est, disent les hommes entre eux, c'est la plus petite menotte du monde. Et donc, là, vous êtes esclave de cette femme, si vous lui passez la bague au doigt, donc il faut garder ses distances avec l'engagement. On ne veut pas s'engager. Alors, on essaie un peu le mariage à l'essai, qui n'a rien d'un mariage, c'est juste un essai. La Bible appelle ça le concubinage, la fornication, la vie en commun. Aujourd'hui, on dit ma compagne, mon compagnon, mon copain, ma copine. Mais quand on dit votre épouse, non, pas vraiment, c'est... Voilà, on est ensemble. On est ensemble, ça veut dire beaucoup de choses. Et même le législateur n'y se retrouve pas, parce qu'il y a des gens qui veulent des allocations, ils veulent tous les avantages des couples mariés, mais ne veulent pas de mariage. Donc on a inventé le Pax pour faciliter, si vous voulez être unis tout en n'étant pas unis, mais passons quand même comme si vous étiez unis, vous vous paxez et ça sera le compromis entre le mariage et la cohabitation. Mais bien sûr, tout ça c'est sur un fond de ce que les gens comprennent du mariage. Par exemple, ce qui a vraiment marqué les esprits pendant des siècles en France, le mariage était associé en France à l'Église catholique. D'ailleurs, avant que vraiment le gouvernement ne prenne des choses en main, c'est l'Église catholique qui tenait les registres d'état civil. Vous étiez marié si vous étiez marié à l'Église, sinon vous n'étiez pas marié. Et d'ailleurs, ça a apporté beaucoup de tort aux Huguenots, parce que, ben, ils étaient légalement mariés, du moins devant Dieu, devant ministre de culte. Et si on avait reconnu le culte protestant, on aurait reconnu leur mariage. Mais on disait, vous vivez tous dans l'infidélité, dans la fornication, parce que vous n'avez pas été mariés à l'Église. Vous n'êtes sur aucun registre d'état civil. Donc, on comprend une réaction par rapport à ça. Et le mariage pour l'Église de Rome, c'est un sacrement, donc c'est une partie des moyens pour arriver au salut. Seule l'Église peut le donner. Le mariage à l'Amérique pour l'Église n'est pas chrétien. Si vous n'êtes pas marié à l'Église, pour un bon catholique montain, vous n'êtes pas vraiment marié, même si vous êtes marié légalement. Et le pape, il conserve le privilège d'annuler les mariages, même célébrés par l'Église, de les annuler. Il faut quand même avoir les moyens. parce que ça compte, ou être très connu pour que ça attire son attention et lui faire comprendre que ce mariage dans lequel vous êtes ne vous convient pas, qu'il annule, et vous pouvez vous remarier le plus spirituellement, le plus religieusement du monde avec quelqu'un d'autre parce que le pape a annulé votre mariage. Sinon, c'est le péché mortel. Alors, tout ce côté de sacrement, ce n'est pas du tout l'idée biblique du mariage. Donc, ensuite, l'idée du mariage, l'idée d'union libre. Je me souviens avoir rencontré deux jeunes, je pense qu'ils étaient sauvés, mais ils n'avaient rien compris au mariage. Et ils avaient chacun un nom de famille différent, et ils venaient dans notre église, et j'étais un jour rendre visite à mademoiselle, et je vois le nom de monsieur sur le bouton de la sonnerie, tiens, j'étais curieux, c'est pas bon. Et j'entre et les deux étaient là et je dis, vous êtes mariés? Oui, 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 nous sommes mariés. Ah, depuis quand? Parce que je ne savais pas. Ah, ben un jour, parce qu'on s'aime, on a dit, mais nous nous marions devant Dieu. Et puis ils ont sauté dans le lit et puis c'était fait. Ce n'est pas le mariage biblique. Alors, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est avant tout un engagement. Un engagement devant Dieu qui a créé cette institution. Dieu a présidé au premier mariage. Quand Adam et Ève étaient devant lui, sans qu'ils aient ni l'un ni l'autre père et mère, Dieu leur a quand même dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est quitter ses parents dans sa tête. Papa, maman, je vous aime. C'est merci de vos conseils. J'en parlerai avec ma femme. Et on vous fera connaître notre décision. Plutôt que, ma chérie, oui, ma mère m'a dit ça, et je crois qu'elle a raison, donc, mais moi je ne suis pas d'accord, mais tant pis, c'est ma mère qui l'a dit, donc je pense qu'il faut, ça c'est grave, ça va détruire les mariages. Il faut quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et ensuite seulement, la relation à une seule chair. Mais c'est aussi un engagement public et légal. Ce qui manquait à nos amis, c'était pas public, c'était pas légal. Et les articles 212 à 215 que vous avez entendus, si vous avez été à la mairie pour le mariage, soit le vôtre, soit ceux de vos amis, vous avez entendu l'adjoint du maire qui lisait ces quatre articles. Et le législateur n'a fait que reprendre la pensée du Créateur. Une communauté de vie. Quand on est marié, on vit ensemble, sous le même toit. Chacun contribue au foyer selon ses moyens. Les deux se sentent responsables de faire vivre ce couple et les enfants qui viendront enrichir ce foyer. Ils prennent la responsabilité et les deux prennent un engagement à éduquer leurs enfants et à préparer leur avenir. C'est un projet, c'est un travail, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Le mariage est quelque chose d'extrêmement sérieux. Le mariage est fait pour des adultes. Il n'est pas fait pour les enfants. Il y a des gens qui ont 30 et 40 ans qui sont toujours enfants ici. Et donc, dès que ça va mal, c'est terminé, cette femme, je ne la supporte pas. Je pars, elle part, ça m'est égal qui part, mais on ne peut pas continuer ensemble. Alors qu'on n'a même pas fait l'effort de s'humilier, de réfléchir, d'en parler, de réparer le mal et de faire durer le mariage. C'est un engagement à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement exclusif. Lui et moi, elle et moi, personne d'autre. C'est pas à trois, c'est pas à cinq, c'est nous deux, monogamie. La forme du mariage diffère selon les cultures. Un de mes amis était missionnaire en Afrique. Dans les années 30, 40 et 50, il a pu vivre, un des rares blancs à avoir pu vivre parmi les pygmées. Et il a dit, quand j'étais parmi les pygmées, ils m'ont expliqué le mariage. C'était que vous aviez une case où toutes les jeunes filles adolescentes vivaient et une autre case pour les jeunes hommes adolescents. Et ils étaient comme frères et sœurs entre eux, voilà. Mais peu à peu, quand un jeune homme remarquait une jeune fille et elle intéressait pour qu'elle devienne sa femme, il en parlait à ses copains, qui allait parler aux copines de la jeune fille, qui lui disait, voilà, un tel pense à toi, etc. Est-ce que tu es d'accord? Alors ça revenait par le téléphone primitif, hein, par les copains des copains, bouche à oreille, Oui, c'est jouable. À un moment donné, le jeune homme allait se présenter devant la case des jeunes filles. La jeune fille sortait et ensemble, ils faisaient leur propre case devant toute la communauté qui était là, qui voyait, qui construisait leur case à deux. Et quand la case était finie, ils entraient là et pour la communauté, ils étaient mariés. Ça répond quand même à tous les critères. Même s'il n'y a pas de gouvernement central pour valider, c'était « je quitte mes parents », c'était déjà fait, « je choisis un conjoint », »,« je la demande en mariage », »,« elle accepte », »,« nous construisons littéralement notre maison et nous construisons notre foyer à la vue de tous, c'est public, c'est un engagement personnel. Alors, vous dites, bon, d'accord, très bien, j'accepte cette première partie, je vois ce qu'est le mariage, ce qui n'est pas. Mais pourquoi le concept du mariage est tellement important? Pourquoi c'est tellement important cette idée d'engagement? Parce que cet engagement et cette loyauté est à la base, c'est le fondement même du foyer. C'est au foyer ce que la dalle, la fondation est à la maison. C'est la famille d'abord, c'est l'unité de base de toute société humaine. Une société humaine qui joue avec la famille est une société humaine qui est en perdition, qui est en cours de déstructuration. Et mes amis, nous sommes bien placés en France et en Europe et dans le monde occidental en général pour constater que notre société se détricote. Pourquoi il y a des crises de logement? En grande partie parce qu'il y a tellement de couples qui sont divorcés et ça fait deux logements plutôt qu'un. Quand les gens veulent gagner beaucoup d'argent, ils font des 25, 30 et 40 mètres carrés et les louent à des gens qui se retrouvent seuls parce qu'ils étaient en couple, maintenant ils sont divorcés et chacun doit vivre de son côté. Financièrement, c'est l'horreur, le divorce. Les gens qui bâtissent peu à peu en patrimoine, le divorce arrive et les deux se retrouvent pauvres. Ça, c'est le moindre des problèmes, le problème financier. Mais c'est quand même un problème important. Plus les familles sont saines et unies et bien structurées, plus la population sera de bons citoyens. Ceux qui sont à l'éducation nationale et qui enseignent nos enfants nous disent: la dégradation dans les attitudes, dans les comportements des enfants est visible de 5 ans à 5 ans. Dans le temps, une génération, c'était 30 ans. Tiens, les gens de 30 ans en arrière étaient différents des gens de 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Les enfants de 18 ans ne reconnaissent même pas les codes des enfants de 13 ans. Et ça descend vers le bas. Et pourquoi ? Vous demandez aux camarades de classe, ou les jeunes qui sont dans les collèges et les lycées, combien peuvent rentrer tous les soirs et retrouver leur mère qui les a enfantés et leur père qui les a engendrés, qui vivent toujours ensemble et qui s'aiment. C'est une minorité. La plupart et beaucoup passent 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre. Imaginez comment suivre une bonne scolarité dans ces cas-là. Et alors, c'est pas uniquement père et mère, mais c'est le copain de la mère et la copine du père, ou bien la deuxième femme avec les enfants de eux aussi. Et puis, comment voulez-vous avoir une stabilité psychologique en vivant toutes les années formatives dans ce genre d'ambiance? Même avec la meilleure volonté du monde, l'enfant est obligatoirement stressé et déstabilisé. Et donc, plus le psychisme des enfants, et il est délicat, plus ce psychisme est perturbé, plus cet enfant sera handicapé affectivement, psychiquement, psychologiquement, moralement, pour à son tour bâtir quelque chose de stable, parce qu'il n'a jamais vu quelque chose de stable. Et mes amis, nous en sommes là. C'est une maladie. Je pense que si on pouvait, je ne pense pas qu'on puisse le faire, je pense que si on pouvait chiffrer le coût à l'assurance maladie et le nombre de personnes dans nos asiles et nos maisons de repos, etc., issues directement de ces mésententes dans les foyers, de toute la violence verbale qui a lieu, ça serait des milliards d'euros. Nous sommes en train de nous plomber à tous les points de vue parce que nos familles volent en éclats. Bon, nous en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour la société, mais nous pouvons au moins commencer chez nous, à vivre en foyer basé sur la Bible. Quand le Nouveau Testament a été écrit, Paul vivait à une époque semblable à notre époque. L'Empire romain, c'était en pleine décadence. À l'époque, c'était même pire car la pédophilie était chose courante et approuvée par la société. Alors qu'aujourd'hui, quand même, la pédophilie, c'est encore un crime. Mais c'est dire l'horreur dans laquelle était la société romaine quand Paul a écrit l'Épître aux Éphésiens. Mais Dieu ne nous appelle pas à suivre la pensée du monde. Il nous appelle à être différents du monde. Quelle est la valeur du mariage? Un homme, un père pourrait dire, quelle est la valeur du mariage pour moi? À quoi ça me sert? Eh bien d'abord, ça l'oblige, le père, le mari. Ça l'oblige à travailler. On a une bouche à nourrir, on a un loyer à payer, on n'est plus chez papa et maman, on a des responsabilités, on est obligé de travailler pour pourvoir aux besoins de la famille. C'est une bonne chose pour un homme de ressentir la responsabilité sur ses épaules. Parce que nous les hommes, on a trop souvent tendance à démissionner dès qu'il y a des responsabilités, dès qu'il y a des engagements. Ouh là 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 là, ça c'est pas pour moi. Moi, je veux ma liberté. Et pourtant, l'homme est, Dieu l'appelle le chef du foyer, il a des responsabilités, Dieu veut qu'il les assume. Ça donne à l'homme une stabilité morale, sexuelle, le sens de la loyauté. J'ai une femme qui m'attend à la maison. Je ne suis pas le jeune caïd qui enflamme les cœurs féminins autour de moi, non. Je suis un homme marié, j'ai mon conjoint qui m'attend, je suis un adulte. Mais le mariage oblige l'homme à développer la tendresse, l'écoute, la compréhension. La plupart des hommes ont découvert ou développé ce sens de l'écoute parce que leurs femmes leur ont dit plusieurs fois « Est-ce que tu m'écoutes ? Quoi ? Quoi ? Comment ? Je te parle ! Je te parle ! Ouh là là, elle pleure, qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Je vais l'écouter un peu, je vais quand même faire un petit sourire, peut-être ça. Ouh là, mais elle veut plus que ça, elle veut qu'on s'intéresse à ce qu'elle a à dire. Et puis, finalement, l'homme, malgré lui, est obligé de quitter ce côté un peu superficiel pour réfléchir, pour écouter réellement, pour faire face à ses manques. Alors bien sûr, on en fait facile, mais les gens disent « Oh, les femmes, on ne peut jamais les comprendre. » Peut-être, mais Dieu nous demande d'essayer. Et si on veut vraiment comprendre, pas toutes les femmes, votre femme, parce que chacune est différente, comme les hommes. Dieu a structuré le mariage pour que l'homme pense moins à lui-même et à son petit égoïsme et qu'il écoute vraiment et comprenne vraiment la sensibilité de son épouse. Aujourd'hui, dans le monde, on dirait presque « Oh, un homme qui cherche à comprendre son épouse, mais pouf, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est pas un homme. Un homme, ça montre, voilà, on le trouve séduisant, c'est toujours le vainqueur, le séducteur. Mais ça, c'est nul. On n'est pas des séducteurs, on est des hommes. On a des responsabilités, on a un foyer, on est un leader. On est souvent un père. Les enfants regardent vers leur père, mais c'est l'homme le plus merveilleux du monde pour un garçon de 3 ans. Rien, personne n'est plus grand et plus merveilleux que son père. Et Dieu met cela dans le cœur de cet enfant pour nous pousser à prendre nos responsabilités. Et alors le mariage permet à l'homme de développer son devoir d'exemple et d'enseignant pour les enfants. Dans notre église à Toulouse, on avait un jeune homme qui était dans le sport et très copain avec les copains tout le temps. Et il s'est marié, mais il est resté un peu dans ses habitudes de jeune homme. Alors sa femme disait, c'est pas tous les jours facile, hein, j'ai l'impression d'être la femme d'un ado. Bon, ben c'était comme ça, tout le monde le connaissait comme ça. Et vraiment, se demander comment il va finir et est-ce qu'elle va pouvoir... voilà. Et ils ont eu un enfant. Et ce jeune ado dans sa tête, en quelques mois, est devenu un homme, un père. Alors comme je le connaissais pas, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as complètement changé. Tu étais gamin. Bon, sympa, mais gamin quand même. Là, tu es devenu un adulte. Il a dit, mais c'est mon enfant. Quand j'ai vu ma fille qui me regardait tout ce que je faisais, elle était là à faire tout ce que je faisais, à parler comme moi. Il a dit, j'ai compris que là, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Je ne peux même pas parler comme je parlais avant. Je dois devenir un père, je dois devenir adulte. Eh bien, c'est la paternité qui l'a aidé à franchir le pas vers la maturité. Mais peut-être rien d'autre ne l'aurait fait. Mais dans le cadre familial, la paternité l'a aidé à se réaliser en tant qu'homme. Parce qu'il a vu, il a un pouvoir d'exemple. Pour la femme, qu'est-ce que peut lui apporter le mariage ? Si elle a épousé un homme qui veut vraiment être un bon mari, elle va ressentir une stabilité psychologique. Les femmes, excusez-moi, j'espère ne pas avoir tort, mesdames, quand je parle des femmes, mais les femmes, elles veulent savoir qu'elles sont aimées pour elles-mêmes. Pas pour ce qu'elles peuvent donner, pas pour ce qu'elles peuvent faire, mais juste pour elles-mêmes. Et ça leur donne une stabilité. On parle souvent quand un couple aménage dans une maison ou dans un appartement, vous voyez la femme qui va dans toutes les pièces et elle dit, on va mettre le meuble ici, là on va changer cette tapisserie, là tu vas me repeindre le plafond, ça ne me plaît pas, et puis cette moquette, il faut qu'elle parte, et moi je veux clair ou vieux foncé, et la cuisine, oui, je vois comment ça va être. Et l'homme il dit, attends, c'est bon, on a un toit, on a des meubles, on a une salle de bain, moi ça me suffit, hein, on a le lit, on a le fauteuil, on a la télé, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est bon. Les trous dans les murs, c'est pas grave, on mettra un coup de je ne sais pas, et puis tu le feras toi-même si tu veux. Non, mais pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle veut construire un nid. Elle veut construire un intérieur accueillant. Accueillant pour elle-même, mais pour son mari. Parce que cet intérieur, c'est elle. Alors nous, les hommes, on ne comprend pas ça, mais vous avez une femme qui va devant le garde-robe, elle a pourtant pas mal d'vêtements. Et elle dit, je n'ai rien à me mettre. Et l'homme dit, attends, t'as 15 jeans, t'as 20 robes, t'as rien à te mettre, excusez-moi du peu, mais t'as plus que moi. Mais elle ne veut pas dire qu'elle n'a pas de vêtements à mettre. Elle dit, elle ne voit pas de vêtements là qui lui correspondent à son humeur de ce jour-là. C'est ça que ça veut dire. Là, je crois qu'il y a des femmes qui sont touchées. Là. Mais c'est normal, c'est elle. Ça, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Et un homme, ben, il a besoin de comprendre ça, de traduire en langage masculin ce qu'elle a dit. Mais ce foyer, ce mari lui donne une stabilité psychique, un amour assuré. Elle n'est pas la petite copine d'un gars qui regarde ailleurs aussi s'il a trouvé la plus belle. Vous imaginez l'insécurité dans laquelle ça la met, mais quand elle va devant le maire et devant le pasteur et qu'elle entend cet homme lui dire « Je ne quitterai pas, je resterai fidèle, je t'aime, je te protégerai, etc. » Et c'est merveilleux pour elle. Elle dit « Je serai en sécurité, je peux bâtir ma vie, mon intérieur, mon nid. J'ai envie d'avoir des enfants, mais je veux que les enfants soient dans un nid stable. » Et quand c'est le cas, elle peut s'épanouir. Avoir des enfants, elle ne veut pas avoir des enfants si c'est pour les voir balloter à droite et à gauche. Elle a un rapport avec ses enfants que l'homme n'a pas. C'est impossible d'avoir exactement le même rapport, surtout quand ils sont petits. Donc ce qu'elle recherche, c'est la sécurité. Le mariage est censé donner cette sécurité, puisque c'est un engagement public, légal, en attachement. Et puis, ça lui permet de s'épanouir dans son rôle de ménagère, de cuisinière, de mère nourrice, de conjoint. Je connais pas mal de femmes que la première fois qu'on a mangé chez eux, c'était pas fameux. La dame qui fait la sauce, vous savez, mettre sur les pommes de terre et qui vous dit un grumeau ou deux. Vous inquiétez pas, elle va sortir des livres de cuisine et surtout, si elle est heureuse en ménage, elle dit, mais je veux devenir une bonne cuisinière. On veut inviter les gens. Moi, je veux que les gens aient plaisir. Et quelques années après, vous ne reconnaissez pas du tout la cuisine. C'est la même femme, mais c'est autre chose. Parce que ça lui donne une possibilité d'exercer tous ses dons de femme d'intérieur. Et la quasi-totalité des femmes du monde aiment faire ça. Et aiment améliorer, toujours améliorer leur réception, leur ménage. Et quand le mari dit, écoutez, c'est très joli chez nous, elle dit, oui, mais j'aimerais bien avoir une lumière là-bas parce que moi, mais la lumière, monsieur, mais pourquoi tu vas l'empêcher d'avoir cette lumière là-bas? Ça lui plaît, mettez-la lui. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, elle réfléchit et puis tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Le foyer, c'était quoi? Le foyer à l'origine, c'était simplement le feu dans la cheminée, dans la pièce principale de cette maison primitive. Et on parle encore de pendre la crémaillère, la plupart des gens ne savent même pas ce que ça veut dire. C'était une chaîne qui était dans la cheminée, sur laquelle on pendait un crochet. Et sur ce crochet, on suspendait la marmite. Et dans la marmite, on faisait la soupe pour la famille. Et quand on pendait la crémaillère, ça veut dire on pendait le crochet et la marmite, on mettait le feu et voilà, on est chez nous, on mange autour de cette marmite, c'est notre famille. La femme était toujours la femme qui veillait sur le feu. Que le feu ne s'éteigne pas, qu'on puisse venir se chauffer auprès de ce feu, qu'on puisse mettre les légumes dans la cocotte ou quoi, dans la chaudière, et qu'on puisse avoir cette nourriture, la chaleur, l'alimentation, le confort, la convivialité, le lien familial. Ça, c'est le rôle de la femme. Et pour ça, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit en sécurité. Voilà ce qu'un vrai mariage fidèle va lui apporter. Et pour les enfants, qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants? Eh bien, c'est un milieu de vie où l'on peut grandir en sécurité. L'autre soir, ma femme et moi, on regarde parfois la télé, mais l'émission que j'aime le plus, je crois que c'est, excusez-moi, je ne veux pas faire de publicité, mais Super Nanny. Vous connaissez Super Nanny? Alors, avant de trop rigoler, pratiquement tout ce qu'elle dit est excellent par rapport à la famille. Et l'autre, c'est juste pour dire, par rapport à l'ambiance familiale, c'était une famille avec 7 enfants en bas âge. 7 enfants en bas âge, il y avait 10 écrans dans la maison, des jeux vidéo. Ces gamins étaient insupportables et la pauvre femme n'en s'en sortait pas. Et bien sûr, Super Nanny est arrivée. Et elle a vu tout ça. Et elle a encouragé la famille à éteindre tous les écrans, à se mettre autour de la table, à dessiner. En 3 jours, l'ambiance avait changé. Et les enfants commençaient à se parler et à ne pas se battre, et à écouter leur maman qui, elle, était heureuse de retrouver un peu de son autorité. Tout ça pour dire simplement, les enfants ont besoin d'un milieu aimant, en sécurité, paisible, dans lequel ils peuvent grandir. Chacun a besoin de calme, de tranquillité, de discipline pour apprendre à écouter l'autre, à s'épanouir, à obéir. Un foyer, un bon foyer va protéger les enfants des blessures de la société. Quand un enfant rentre de sa première journée d'école et on s'est moqué de lui toute la journée, il est complètement à terre psychologiquement. Il rentre à la maison, il a besoin de maman et de papa pour parler de toutes ses déceptions, de tout ce qu'il a vécu, de toutes ses souffrances, pour l'aider à voir plus clair, pour lui donner le courage de retourner à l'école jusqu'à ce qu'il puisse s'intégrer. Mais sans ce coussin affectif et ces conseils et cet amour, que deviendra ce gamin? Un foyer donne aux enfants une autorité aimante à laquelle ils peuvent apprendre à obéir. Un enfant qui apprend à obéir dans son foyer, obéira dans l'entreprise, obéira à l'école et il ira loin. Parce que nous sommes en panne de gens qui sont obéissants. Pour trouver des gens qui râlent, qui vous parlent d'une manière violente, qui sont dans la revendication continuellement, ça, on en a l'appel. Mais pour les gens qui peuvent dire, oui monsieur, bien sûr monsieur, je m'en occupe, pas de problème, ça, il n'y en a pas beaucoup. On parle aujourd'hui d'employés, c'est pas autant les diplômes qu'il faut avoir, mais ce facteur qu'on appelle employabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui travaille sérieusement, qui ne crée pas de problème. Mais l'employabilité, ce qu'on appelle dans le monde ça, c'est plutôt un caractère de maturité qui comprend « j'ai un travail à faire, je le fais sans créer de problème ». Où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça quand on est petit, quand on crée des problèmes à la maison et quand les parents nous enseignent, nous disciplinent, nous instruisent pour nous aider à être agréables en société. Quand on voit des enfants qui sont vraiment difficiles à vivre, que alors parfois des grands-parents, je connais quelques grands-parents qui disent « j'aime mes petits-enfants ». Mais alors, une journée avec eux, j'ai une fête comme ça, j'ai besoin d'une semaine de congé, je ne sais pas, j'ai besoin d'avaler des comprimés, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelque part, dans la vie des parents, on peut le penser, il y a bien sûr les enfants qui sont, même avec le meilleur foyer, ils sont quand même comme ça, ils sont montés sur des piles. Mais dans l'ensemble, un enfant qui est bien tenu, qui est aimé, à qui on apprend à obéir, ce sera une joie de l'avoir. Où il ira, les gens seront contents de le voir arriver. Où est-ce qu'on peut apprendre ça? Où est-ce qu'un enfant peut apprendre à avoir un bon caractère, être quelqu'un d'agréable, sinon dans un foyer? Et puis, le foyer, c'est le milieu de soutien pour poursuivre leurs études et préparer leur avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de milieux défavorisés. Alors on dit, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est parce que leurs buildings ne sont pas très jolis, c'est parce que l'école tombe en ruine, ils n'ont pas assez de papier pour le photocopieur. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'ils sont défavorisés, mes amis. Dans la plupart de ces cas, défavorisés aujourd'hui veut dire venir d'un foyer où il n'y a pas un seul livre sérieux, où personne ne lit, où les parents ne lisent pas des histoires à leurs enfants, où il n'y a pas d'affection, où la famille ne s'assied jamais autour d'une table le soir pour manger un repas qui est préparé d'éléments frais par la maman. C'est la gare. On y arrive, on jette son sac, on allume sa télé, on va au lit quand on n'en peut plus, on se lève, on s'en va, on n'a dit ni bonjour ni au revoir à personne. Comment voulez-vous que cet enfant réussisse dans la vie? Là où il est défavorisé, c'est la plupart du temps dans l'ambiance qui règne, dans le seul endroit qu'il peut appeler chez lui, mais ce n'est pas un endroit où il est soutenu, où il est encouragé à étudier, à former des objectifs, à préparer son avenir. Combien de parents devraient parler à leurs enfants pour dire « tu es quelqu'un de merveilleux ». C'est ce que dit la Bible. « Je suis une créature merveilleuse. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'a donné un bon cerveau. Et je veux te voir arriver au maximum que tu peux être pour ton bonheur et pour la gloire de Dieu. Et papa et moi ou maman et moi, on est là pour te seconder, pour t'aider, pour te pousser, pour t'encourager, pour te motiver, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour te faire réussir. C'est bien ce qu'on a promis à Monsieur le maire. On va aider nos enfants à préparer leur avenir. On va les éduquer. Les éduquer, ce n'est pas les instruire. Instruction, c'est scolaire. Éduquer, c'est comment vivre. On ne peut pas apprendre l'éducation en dehors du foyer. Une fois que les enfants sont grands, et que, on ne peut plus les commander puisqu'ils sont majeurs et ils ont peut-être quitté la maison. Les parents peuvent encore jouer un rôle en montrant un bon exemple eux-mêmes et en donnant des conseils à leurs enfants sans les imposer. Les enfants, maintenant, ils dirigent leur propre barque, mais ils sont souvent à l'affût du conseil de leurs parents. Pour leur projet professionnel, pour leur vie conjugale, une famille, c'est une mini-société où on apprend à vivre. Et c'est pour ça que la famille est tellement importante. Permettez-moi de vous dire ce soir que, si ce n'est pas le cas, je vous invite à considérer votre vie conjugale, familiale, comme la chose la plus importante de votre vie, après votre vie personnelle spirituelle avec Dieu. Même plus importante que votre vie d'église, qui est pourtant très importante. Je me souviens c'était des assemblées de Dieu, mais à Toulouse, un monsieur venait à nos études bibliques, il était des assemblées de Dieu, et on a un jour parlé avec lui de son épouse, il a dit « Oui, mais mon épouse, elle est sauvée, on est sauvée depuis 40 ans. » C'était un monsieur assez âgé. Et alors, elle ne vient pas avec vous. « Ah non, on a divorcé. » « Vous avez divorcé ?»« Oui, elle va dans une autre assemblée de Dieu et moi je vais dans celle-ci. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit « Mais on était à fond dans l'église. » Tous les soirs, il y avait quelque chose. Deux fois le dimanche, on était dedans, on travaillait pendant des années, on était les plus fidèles, tellement on était dedans, elle d'un côté, moi de l'autre. Un jour, on s'est regardé, on m'a dit, moi, je ne veux plus vivre avec toi, je n'ai rien à faire avec toi. Ils servaient. Ils étaient dans un activisme, un activisme religieux pendant des années, sans s'occuper de leur mariage, et ça a fini par se séparer. Et curieusement, une église comme l'autre acceptait leur service comme avant. Un bras valide, c'est toujours bon à prendre. Que c'est tragique. Et nous voyons de plus en plus de familles chrétiennes, évangéliques, évangéliques comme vous et moi, dont les mariages tombent en ruine. Alors, on pouvait penser pendant longtemps, des chrétiens, ça ne peut pas leur arriver. Tout peut arriver à un chrétien. C'est un être humain comme un autre. Et les lois du Seigneur sont universelles. Sur la famille, il y a des gens inconvertis, même des gens athées, qui ont une merveilleuse vie de famille, parce qu'ils reconnaissent ces règles qui viennent pourtant de la Bible, comme les règles de bon sens et les ont appliquées. Puis il y a des gens qui connaissent bien la doctrine de la Bible, mais qui ont négligé ces principes-là et qui ne se sont pas occupés de leur couple et de leurs enfants, et leur vie familiale est en ruine. C'est une question morale, en fait. Ce n'est pas une question de connaissance biblique. C'est une question de où est-ce que j'en suis dans ma conscience, dans ma vie et dans mes priorités. Si vous avez le bonheur d'être marié ce soir, louez le Seigneur pour votre conjoint. Peut-être qu'il faut quelques minutes pour trouver un sujet de reconnaissance, mais je suis sûr que vous y arriverez. Il arrive souvent qu'en conseillant des couples en difficulté, de leur dire, prenez une feuille de papier et commencez à écrire toutes les qualités que vous reconnaissez à votre conjoint. Il doit y en avoir quelques-unes parce que vous avez été attiré vers cette personne il y a quelques années pour l'épouser. Et alors, on ne voit que des défauts et qui vont revenir et voir les qualités. Et puis, rester avec ça et être reconnaissant. Quand on est reconnaissant pour son conjoint, on ne peut pas être en difficulté avec lui ou avec elle. Il y a donc tant de choses à dire. Alors, on va passer à la partie B si ça va pour vous. Je voudrais vous parler maintenant un petit peu aux jeunes. Vous qui n'êtes pas encore marié, combien ne sont pas mariés ici? Il n'y a personne qui l'ose avouer. Ah, quand même bien. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas dire leur âge, ils n'ont pas l'air trop âgés encore. C'est bon, c'est le bon moment. Comment pensez-vous au mariage, à votre futur mariage? Comment je vais trouver quelqu'un? Ou est-ce que c'est plutôt Comment discerner la personne que Dieu a préparée pour moi? Et je vous invite à garder cette formulation. Si Dieu a préparé, si Dieu vous a sauvé, il a préparé quelqu'un. S'il veut que vous vous mariez, il a préparé quelqu'un pour vous. Cette personne, sans doute, existe déjà. Et vous pouvez commencer tout de suite à prier que Dieu prépare cette personne pour vous, comme que Dieu vous prépare pour cette personne-là. Mais quelle est la raison de se marier? Avant d'aller trop vite dans le mariage, parfois c'est la volonté de Dieu pour les gens de rester célibataires. Alors parfois dans nos églises, on est tellement dans la culture du mariage et des enfants, t'as encore trouvé personne, t'as quel âge? J'ai 19 ans. Ah, oh, ben alors ça commence à... Bon, t'as quelques années, mais il faut quand même pas laisser. Mais quand on a 38 ans, oh ben dis donc, là, c'est fichu pour toi. Hein? Non, mais on a une telle amour fraternel et on a tellement de tact dans nos églises. C'est ça qui est bon, hein? Mais on n'est pas une valeur marchande. Si on est célibataire, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé personne. Ça peut aussi vouloir dire que Dieu a autre chose à faire pour nous. L'apôtre Paul était célibataire. Il a donné toute une liste d'avantages à être célibataire. Donc il y a vraiment deux bons états. Le célibat et le mariage. Il n'y a pas un bon et un mauvais. Mais imaginons que le Seigneur veut que vous vous mariez. Pour quelle raison? Les raisons humaines ne sont pas suffisantes. Je pense à un ami ce soir. Il dit, oui, moi je veux me marier, je me sens tellement seul. Puis j'ai des désirs et puis je ne compte pour rien, j'ai pas une femme, si j'avais une femme j'aurais un standing social. C'est aucune de ces raisons n'est une bonne raison pour se marier. C'est des raisons mais c'est pas la bonne raison. Quelle est la seule vraie raison pour se marier? Dans le contexte de la volonté de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Je veux marier pour la gloire de Dieu, dans la mesure où je pourrais le glorifier. Dans quel sens? La gloire de Dieu, c'est que je dois servir Dieu toute ma vie. La gloire de Dieu exige que je le serve de mon mieux. Alors, je voudrais me marier parce qu'avec la personne que Dieu a préparée pour moi, je pourrais mieux le servir que sans cette personne. Et puis, j'ai un témoignage, j'ai une influence spirituelle, du moins je veux en avoir une. Je veux trouver une autre personne qui a aussi une influence spirituelle. Et puis, à deux, on peut avoir une influence spirituelle collective. Et ça fera trois influences. Tandis que là, on n'en a que deux. Ça aide à choisir. Parce que si vous avez une vie spirituelle et vous épousez quelqu'un qui n'en a pas, vous n'allez pas avoir trois vies spirituelles. Vous aurez une demi-vie spirituelle. Vous allez vous diviser en deux. Une partie pour le Seigneur, une partie pour votre conjoint. Je connais des couples. Un couple... Une femme, une jeune fille formidable, a épousé par pitié un garçon qui a dit « Je n'ai pas d'amis, je n'arrive pas à voir les amis, tu es ma seule amie, tu ne peux pas m'épouser. » Elle a dit « D'accord, je t'épouse. » Mais ils ont pleuré le restant de leur vie. Ce n'est pas une bonne raison. La pitié n'est jamais, la compassion n'est pas une raison de se marier. Ayez compassion, mais ne vous épousez pas quelqu'un dont vous avez pitié. Quelle est la base de cette relation? Est-ce que c'est sur les sentiments? J'ai un coup de foudre, elle est merveilleuse, elle est trop belle, c'est je sais que c'est elle. Les sentiments sont changeants et instables. Les sentiments ne sont pas basés ni sur les faits, ni sur la compréhension de la personne. Les sentiments ne sont pas basés sur une décision réfléchie, ni sur un choix. Les sentiments nous envahissent, nous ne les choisissons pas. Nous ne les mettons pas en place. Quand on décide de se marier dans la volonté de Dieu, Dieu nous donne des sentiments. Mais quand c'est des sentiments qui viennent d'abord, on est obligé d'un peu de ne pas trop en tenir compte. Parce que c'est comme un feu qui envoie des fumées dans nos yeux et on ne voit pas le plan de Dieu. La base d'une relation de mariage, c'est l'amour. Et il y a les trois amours, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'abord l'amour agapé, c'est-à-dire un choix de la volonté. Je décide d'aimer cette personne. Je sais que c'est la volonté de Dieu, je veux l'aimer. C'est une décision basée sur le sacrifice de soi-même. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour m'attacher à cette personne et pour contribuer à son avenir, à son épanouissement. comme Dieu a fait le choix d'envoyer son Fils qui a fait le sacrifice suprême pour mon salut. Dans l'exemple de cet amour, je décide de vouer ma vie pour le bien-être de cette personne-là. Et puis il y a l'amour philéo. Si vous trouvez quelqu'un, je ne vais pas supporter de regarder, mais comme je dois faire abstraction, je décide de l'épouser, puis je vais essayer de l'aimer. Dieu ne vous demande pas ça. Il faut qu'à la base, il y ait ce désir de s'attacher, mais il faut aussi que cette personne soit un ami proche, quelqu'un qui est assorti à vous, quelqu'un avec lequel vous avez une vraie liberté, une honnêteté, une relation ouverte, on peut parler de tout. Parfois on rencontre des jeunes filles, mais c'est terrible. Oui, je fréquente...